premier livre des Chroniques. Et je vais lire le verset 9 et le verset 10. Salomon, donc c'est David qui parle. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Voilà. Connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors, je vous propose d'écouter ce texte et de réfléchir à ce texte à la suite de ce cantique, de ce chant qui a été chanté, que nous avons chanté, tel que je suis. C'est-à-dire que nous venons à Dieu dans la plus grande simplicité. Mais il faut quand même venir. Il faut quand même ouvrir ses oreilles. Il faut quand même se tenir devant Dieu avec quelque chose qui est de notre responsabilité. Être devant lui avec intérêt, avec ouverture, avec la volonté de retenir quelque chose. Et ça serait intéressant, par exemple, qu'à la fin de ces moments, chacun ici puisse dire pour lui-même, pour elle-même, voilà ce que j'ai retenu, mon Dieu. Et je te le montre, je te le dis, je l'écris même pour qu'il puisse en résulter quelque chose. Mais on a vu aussi dans ce chant que nous appartenons à Dieu, en fait. Et comme si, en tant qu'enfant de Dieu, alors Dieu est le garant de notre vie. Dieu est vraiment celui qui veut nous parler, nous conduire, nous protéger, nous consoler, nous faire aller vers quelque chose qui est complètement à sa gloire et qui est complètement à notre profit. Alors, je pense qu'on peut venir entendre ce texte et le lire et le relire dans cette perspective-là. C'est-à-dire que Dieu est quelqu'un qui parle. Et je crois que notre plus gros problème, c'est pas tellement de pas l'écouter, c'est de penser qu'il nous parle pas. C'est de ne pas attendre qu'il nous parle. C'est de ne pas se placer en situation pour qu'il se passe réellement quelque chose. Alors, de quoi nous parle-t-il, notre Dieu dans ce petit texte? Il se trouve que dans ce premier livre des Chroniques, David, il a, on va dire grosso modo, hein, dans la première dizaine de chapitres, il a passé son temps à faire écrire les généalogies comme s'il voulait un peu connaître tout le monde. Il est roi sur Israël. Et il fallait qu'il ait cette connaissance de ces gens et de ces gens qui sont avec lui. Après, dans la dizaine de chapitres suivants, il a organisé son royaume. Et on voit qu'il y a ceux qui sont responsables de l'organisation, de la protection, de l'économie, du champ, etc. Et puis ensuite, il commence à raconter qu'il a réuni tous les matériaux pour construire le temple. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi qui construiras ce temple parce que tu as fait la guerre pour posséder le pays d'Israël et tu as tué trop de gens, en fait. Tu as versé le sang. Et donc, il est en train de dire à Salomon, son fils, que ça va être lui qui va construire ce temple. Et voilà un peu la circonstance dans laquelle il dit cela à Salomon. Et si on regarde très rapidement le livre des Chroniques, on voit qu'une chose était importante pour David, c'était que l'arche de l'Alliance, le coffre de l'Alliance, soit dans un endroit en sécurité, dans un endroit dans lequel, qui était prévu pour que Dieu vienne y habiter. Et vous savez que pendant la traversée du désert, Dieu était dans le lieu très saint, mais quelque part il habitait sous des tentes, sous des toiles, hein, ce qu'on appelait le tabernacle. Et dans le livre des Chroniques au chapitre 17, on voit David qui vient dire au prophète Nathan, « Écoute, moi j'habite dans une maison et je voudrais que l'Éternel habite dans une maison. » Autrement dit, l'intention profonde de David, c'était de vivre la présence de Dieu. Et peut-être que on pourrait se dire que on aurait aimé vivre ces moments, en fait, ou vivre avec Jésus, ou etc. Mais comme ça a été dit par notre sœur, en particulier dans ce temps de culte, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes dans sa présence. Et David souhaitait cette présence, à tel point qu'il a investi des sommes colossales. Je crois qu'il y a, je ne vais pas dire de bêtises, 3000 tonnes d'or. Pour ceux qui connaissent le prix de l'or au gramme, c'est impressionnant. C'est dire l'importance que David avait pour la personne de Dieu et pour sa présence. Ah. Mais David va dire à Salomon, connais le Dieu de ton père. Qu'est-ce que Salomon connaissait de son père? Qu'est-ce que la Bible, par exemple, les écrits disent de David, en fait? Les écrits disent que du bien? Non. Que du mal? Non plus. Mais les écrits nous parlent de la vie de David avec les très bonnes choses qu'il a faites. Par exemple, il a fait venir l'Arche de l'Alliance pour qu'elle habite à Jérusalem. Et il a dansé, il a sauté de joie. Qui est-ce qu'il a méprisé? C'est sa femme, Michal. Et on voit quelque part cet enthousiasme de David pour Dieu. Et on peut penser que David a voulu transmettre à Salomon cet enthousiasme. Connais le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. C'est-à-dire que David a probablement transmis à Salomon quantité de choses sur Dieu. Et c'est probablement pour ça que Salomon en a tiré cette sagesse. Alors, je vais vous poser une question indiscrète. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont voulu vous faire connaître de Dieu, vos parents ou vos parents spirituels? Peut-être qu'on a des parents qui sont pas croyants, mais quelque part, quelles sont les personnes qui sont intervenues dans notre vie et qui nous ont dit quelque chose, qui nous ont montré quelque chose par leur comportement, par leurs paroles? Je vais vous faire quelques confidences. Mon papa m'a transmis la certitude absolue que Dieu est là, que Dieu parle, que Dieu conduit, et je lui en suis reconnaissant. Mais mon papa m'a transmis que il était tout à fait capable de vivre sans ce Dieu qu'il me faisait connaître. Bon, c'est enregistré, hein, mais il est mort. Mais je veux dire, sans aucune méchanceté dans ma bouche ou amertume, je veux dire que j'ai vu chez mon papa que ce qu'il me disait de Dieu, ça correspondait pas forcément à comment il se comportait, en fait. C'est-à-dire que en nous, on a tout un ensemble de choses qui sont du Dieu de notre papa et de notre maman. Et c'est ma maman qui m'a, je pense, le plus appris quelque chose de Dieu, parce que c'est avec elle que j'ai plus parlé. Mais des deux côtés, le Dieu de mon papa ou le Dieu de ma maman, c'est probablement un Dieu dont je ne connais pas toutes les facettes de la personnalité, en fait. Parce que mon papa était quelqu'un qui aimait bien contempler Dieu. Il aimait bien être tout seul et réfléchir. Mais il me parlait jamais. Ça te fait pas sourire. Et il y a quelque chose qui va pas là-dedans, en fait. C'est-à-dire que il faut bien avoir conscience que de la même manière que Salomon, nous sommes tous des enfants de quelqu'un et que nous risquons de rester sur le Dieu de notre papa ou de notre maman. Et ça vaudrait la peine qu'on prenne du temps pour dire, voilà ce que j'imagine être le Dieu de mon papa ou le Dieu de ma maman. Ça ne veut pas dire que je les juge. Ça ne veut pas dire que je leur donne tort. Non. Je les accepte et je les aime comme ils sont, en fait. Et Isabelle et moi, nous avons 4 enfants. La première a 41 ans. Et on voit bien que nos enfants ne nous suivent pas forcément dans notre connaissance de Dieu. Bien qu'ils soient chrétiens, impliqués, mais ils ont fait des choix personnels. C'est pour ça que David dit à Salomon, connaît le Dieu de ton père. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre vivre en fonction de ce que je sais du Dieu de mon père ou de ma mère et le connaître. Par exemple, j'ai fait des études d'opticien et j'ai été opticien pendant 12 ans à Aix. Et quand je suis allé à Paris faire mes études d'opticien, eh bien, pendant 20 ans, j'avais eu l'habitude d'aller à l'église. Et je m'étais jamais posé la question, c'était impossible que je n'aille pas à l'église, en fait. C'était le Dieu de mon papa et de ma maman. Mais le premier dimanche que j'ai passé à Paris, où je me suis réveillé, je crois qu'il était 7 heures du matin, je m'en souviens bien, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ce dimanche? Je vais à l'église. Et là, c'était une décision personnelle. C'est-à-dire que j'ai été appelé à connaître le Dieu de mon papa, de ma maman. Le connaître. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre vivre avec l'idée de ce que je sais du Dieu de mes parents ou de ceux qui m'ont accompagné, et vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Connaître le Dieu de ton Père. Eh bien, je vais prendre quelques exemples en vrac. Isabelle et moi, qui avons quelque chose comme 6 mois d'écart d'âge, nous sommes de plus en plus vieux. Ça se voit peut-être pas. Mais la vieillesse, C'est terrible. C'est la vieillesse, c'est la perte progressive de tout ce que nous avons. On est d'accord? Et quelque part, quand on est jeune, il faut l'entendre. Parce que quelque part, il faut se préparer à être sur ce chemin avec Dieu, dans lequel il va pas falloir forcément réussir ou conserver quelque chose. Non. Il faut connaître le Dieu de nos pères. C'est-à-dire vivre dans ces circonstances qui sont faciles ou difficiles, agréables ou désagréables, mais les vivre en connaissant le Dieu de nos pères. On pourrait faire une petite interrogation écrite avec une note qu'on se donnerait à soi-même, en fait. Qu'est-ce qu'on connaît de la justice de Dieu? Est-ce qu'on est fâché avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on ne voudrait pas rencontrer? Est-ce que on rêve de se venger? Est-ce qu'on a de l'amertume suite à telle ou telle situation, etc.? Pourtant, dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, il est bien dit, ne vous vengez pas vous-même. À moi, la vengeance, dit l'Éternel. Moi, je vengerai. Wow. Connaître le Dieu de mon Père, c'est à un moment donné rencontrer celui qui se laisse rencontrer et qui va s'ouvrir à moi pour me faire comprendre des choses de manière personnelle et probablement différente, de manière différente de ce que mon papa ou ma maman ont pu vivre. C'est pas que je juge mon papa ou ma maman, c'est que je vais faire ces choses de manière personnelle. Et je pourrais dire, oui, par rapport à la justice, j'ai fait des expériences avec Dieu assez étonnantes. Tout à coup, ma colère, parce que j'ai compris que lui était en colère. Un autre aspect. Quand on se regarde dans la glace tout nu, je crois que c'est rare qu'on s'apprécie. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et quand on se regarde dans la glace habillée, et quand on regarde son histoire, je crois que c'est difficile de s'apprécier. Pourtant, le psaume 139 nous dit bien que notre âme, mon âme bénit l'Éternel, que notre âme sait très bien que nous avons été créés d'une étrange et merveilleuse manière. Mon âme le sait très bien. Si j'avais une idée du regard de Dieu sur moi, comment est-ce que je pourrais être complexé, en fait? Impossible. Même avec le regard des autres, qui vont dire, tu es trop grand, tu es trop petit, tu es trop gros, tu es trop maigre, tu parles trop, tu parles pas assez, tu ceci et cela, en fait. Connaître le Dieu de ton père, c'est expérimenter que ce Dieu-là, on lui appartient. Et qu'il a fait quelque chose de nous. Et qu'il nous a donné un avenir. Mais ça, il faut l'expérimenter. Comment est-ce qu'on peut avoir une mauvaise image de soi Quand on entend de la part de Dieu qu'on a été créé d'une étrange et merveilleuse manière, quelles que soient les circonstances. Mais quand on vit en connaissance du Dieu de papa et maman, ça marche pas bien. Mais quand on connaît le Dieu, alors là, il se passe quelque chose. Je dirais que notre vie devrait être une succession de connaissances et d'expériences. Ah, mon père, mon papa, je me suis fait maudire par quelqu'un qui m'a dit que je l'intéressais pas, que je réussissais jamais rien, que j'ai même été chassé d'un groupe. Si jamais cette situation-là me fait plus de mal que de bien, c'est que j'accorde plus d'importance à la parole de cette personne ou de ces personnes qu'à la parole de Dieu. Alors on pourra dire que ça, c'est très théorique. Mais c'est très théorique si ça reste une théorie dans notre tête. Mais si on le vit de manière pratique, si on connaît le Dieu de notre Père, de notre Mère, est-ce qu'un avis peut être plus important que l'avis de mon Dieu? Un autre exemple. Je ne sais pas que faire. Je ne sais pas que faire dans une situation sur chômage, dans une situation où je cherche à rencontrer quelqu'un pour le mariage, dans une situation où je suis malade. Et de ce fait, ne pas avoir de réponse, c'est quelque chose qui me gêne. Mais le Dieu de mon père, il me dit qu'il parle, en fait. Hein, il y a des affirmations dans la Bible où Dieu dit « mais je passe mon temps à parler, en fait ». Romains 12, verset 2, « afin que vous discerniez la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite ». Mais ça, ça peut être une connaissance un peu vague de quelque chose qu'on m'a appris, qu'on m'a apprise. Est-ce que c'est une expérience? Il y a des chrétiens qui s'ennuient. Est-ce que on ne peut pas faire de nos journées des expériences du discernement de la volonté de Dieu? Où on se pose et on passe notre temps, du temps en tout cas, à méditer, à se placer devant Dieu, à chercher à savoir si je vais à droite ou si je vais à gauche, et c'est pas un problème quand je ne l'ai pas encore discerné. Colossiens 1:9, Paul prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence de l'Esprit-Saint. Ça devrait être une norme. Mais peut-être que David l'a expérimenté par toutes les souffrances qu'il a pu vivre, notamment dans ses propres fautes. Mais Salomon, il s'est laissé aller. Vous savez que Salomon, à la fin de sa vie, il a fait des autels aux démons. Un autre aspect, c'est les contraintes. Pourquoi Dieu nous place-t-il dans des contraintes? Je ne suis pas né dans la bonne famille. Je ne fais pas le travail que j'aurais voulu faire. Me sens seul, incompris. Même dans l'église, ça ne sert plus à rien que je parle. Pourquoi Dieu permet-il ces contraintes, en fait? Alors peut-être que dans la vie de mes parents, j'ai toujours entendu que ces contraintes étaient une plaie et qu'on s'en plaignait et qu'on ne savait pas trop qu'en faire. Mais en fait, ma liberté, c'est de mettre des jolis rideaux dans ma prison. Ma liberté, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu dans ma prison. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. C'est que depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais autant connu le rejet. C'est des contraintes. Mais ces contraintes-là, Dieu les permet. Ces contraintes-là, Dieu en fait quelque chose. Et là... Ouais. Bonne, agréable et parfaite, ouais. Et ces contraintes-là, en fait, mon père ne m'a pas appris, en fait, à vivre avec le Dieu qui est capable de faire changer les contraintes. Donc, quelque part, en connaissant le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, j'ai appris quelque chose dans mon expérience personnelle. Je dirais qu'il y a un âge à partir duquel, on pourrait dire que c'est la puberté, parce que c'est l'âge dans lequel on devient responsable. Il y a un âge à partir duquel il ne suffit plus de connaître Dieu. Non, il faut le rencontrer. Il faut faire l'expérience d'une relation avec lui dans toutes les situations. Et là, dans ces contraintes-là, quand je fais l'expérience d'une vie avec Dieu, alors, c'est clair que il n'y a plus de contraintes. C'est-à-dire que Dieu permet que je sois dans une situation comme ceci ou comme cela. Il est souverain et il peut tout. Ça peut nous faire mal, ça, en fait, hein, de dire « mais pourquoi tu permets ceci, cela ?» Mais quand je rencontre le Dieu de mes parents, quand je le rencontre, alors c'est plus le Dieu de mes parents, c'est mon Dieu en fait. Il faut que j'arrête de faire ce que mes parents m'ont toujours dit. Il faut que je commence à choisir avec mon Dieu de faire ce que Dieu, mon Dieu, m'a fait comprendre. C'est pas que je critique ce que mes parents m'ont dit, encore une fois, mais quelque part, ce que mes parents m'ont dit, ça me permet d'avoir rencontré mon Dieu et de me tenir debout devant lui. Mais à un moment donné, il faut quand même que j'aie une rencontre régulière et personnelle avec mon Dieu. Connais le Dieu de ton père. Je dirais que la plupart de nos problèmes viennent du fait que on connaît des choses sur Dieu, le Dieu de nos parents. Mais est-ce que on connaît vraiment Dieu? Connais le Dieu de ton père. Je vous ai parlé de la justice de Dieu, de l'œuvre de Dieu en nous, il nous a créé, il n'y a aucune raison qu'on soit complexé, Non, on est ce qu'on a pu devenir par la grâce de Dieu. Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous appelle à vivre dans toutes circonstances. Et n'oublions pas que dans toutes circonstances, toutes les choses que nous voyons comme mauvaises sont certainement utiles, même dans nos pensées. Par exemple, qu'est-ce que on met pour que les tomates poussent mieux dans le jardin? On met de l'engrais. C'est quoi l'engrais? Ce sont les déchets. Dans la vie, c'est pareil, en fait. Il faut pas craindre les déchets. Mais la semence de Dieu dans les déchets, elle produit de belles choses. Et justement, parce que Dieu est tout puissant, alors je m'inquiète pas. S'inquiéter, le souci. Mesdames, c'est quelque chose que vous connaissez? Et s'inquiéter, c'est un péché. Ne soyez pas en souci, a dit Jésus en Matthieu 6. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul en Philippiens 4. Rejetez votre souci sur Dieu, dit Pierre en 1 Pierre 5. S'inquiéter, c'est quelque part donner plus d'importance aux circonstances difficiles qu'à Dieu. Et c'est sûr que si on avait Jésus à côté de nous qui nous tienne la main, ça serait plus facile de pas s'inquiéter, probablement. Quoique, il y aurait peut-être un moment où on dirait à Jésus, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as pas vu tout ce qui se pointe là? Et c'est pour ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 16, verset 7. Parce qu'en fait, en nous, il y a le Saint-Esprit, et que on travaille à vivre quelque chose de vrai, de juste dans nos pensées, en collaboration avec le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'on ne s'inquiète pas, ce qui fait qu'on n'est pas abattu par la tristesse. Dans l'expérience qu'on fait avec Dieu, connais le Dieu de ton Père. Alors toutes ces choses-là, vengeance, complexe d'infériorité ou de supériorité, être perdu, être contraint de quelque chose, être inquiet, être triste, tout ça s'estompe. Et le problème, c'est que souvent, on demande à Dieu que ça s'estompe. On a raison de le faire? Je ris parce que vous savez que ma question est piégée. Mais dans nos cantiques aussi, hein, on va se laisser avoir, hein, parce que dans le psaume 51, il est dit « Rends-moi la joie de mon salut », alors on va dire « Seigneur, donne-moi la joie ». Ouais, mais dans l'épître aux Philippiens, il est dit « Réjouissez-vous toujours ». C'est-à-dire que nous avons la responsabilité de recevoir les cadeaux que Dieu nous fait. On n'est jamais victime avec Dieu. On est toujours acteur avec Dieu. Connais le Dieu de ton Père. Et je mets l'accent sur le connais. Et alors, David va dire une deuxième chose à Salomon, qu'on a lu, c'est sers-le, sers Dieu, sois un serviteur de Dieu, avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Waouh! D'abord, est-ce que c'est agréable de servir Dieu dans les contraintes? Oui, non, peut-être. La question dans la vie chrétienne, c'est que ce n'est pas un problème que ce soit agréable ou désagréable. Moi, ça fait 35 ans que j'accompagne des gens en difficulté. Et les gens me disent, mais comment tu fais pour avoir affaire à des gens en difficulté? Ça doit être désagréable. Ah, je leur dis, ben moi, je m'éclate parce que je rencontre des gens. C'est-à-dire que, en fait, si nous voulons servir le Seigneur, comme cette jeune fille qui a eu 8 ans aujourd'hui, c'est vrai que quand on est très jeune, la première chose qu'on voit, il y a la joie de servir, mais il y a aussi la difficulté. Mais y a une expression qui vient de je ne sais où, c'est et qui m'a impacté, c'est tout ce qui a de la valeur coûte. C'est-à-dire que quand les industriels me font un cadeau, en général, c'est que ce cadeau ne vaut rien. Tout ce qui a de la valeur coûte. Et du coup, c'est pas un problème pour moi que ça coûte. Oh là là, j'ai essayé de lire la Bible, mais quand j'ai vu 10 chapitres sur les généalogies dans les chroniques, j'ai arrêté, hein. Ça coûte trop. Mais hein, en douille, quand tu lis la Bible, tu rencontres Dieu. Bon, j'ai essayé de pardonner à mon frère et à ma sœur, mais c'est au-dessus de mes forces. Ouvre ton cœur. Avance dans cette sincérité, et si l'autre te rejette, te méprise, c'est son problème, c'est pas le tien en fait. Ah oui, mais ça me coûte. J'ai proposé quelque chose à l'église, mais ça n'a pas été même pas entendu en fait. Propose-le une fois, deux fois, puis après peut-être propose autre chose ou fais autre chose. Oui, mais ça me coûte. Sers-le avec un cœur sans réserve, un esprit bien disposé. Le cœur, nous dit Jésus, c'est la source des pensées. Imaginez un lac. Ce qui alimente le lac, c'est un ruisseau, c'est une petite rivière. Et l'endroit où le ruisseau alimente le lac, c'est le cœur. Le lac, c'est nos pensées. Et la surface du lac, c'est nos états d'âme. Qu'est-ce que c'est avoir un cœur bien disposé? C'est attention à ce qu'on s'autorise à penser. Galates 4, verset 5, 5 à 8, nous dit que parce que nous sommes fils et filles, Dieu a placé ou a versé son esprit dans nos cœurs. Ça veut dire que dans la partie la plus profonde de notre être, il y a l'Esprit Saint qui est là pour nous conduire dans le choix d'une pensée. Waouh! À partir de ce moment-là, tout va toujours très bien. Mais sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Je crois que si on avait une espèce d'appareil qui nous permette de voir dans nos cœurs tout ce qui n'est pas selon Dieu, je crois que ça a été un petit peu dit ce matin, ça nous serait bien utile. Mais la lumière de l'Esprit Saint, c'est ça. Un cœur bien disposé. Quelles sont nos intentions, en fait? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos intentions quand on va dire bonjour à quelqu'un? Deux, trois précisions en vrac. Quand on va dire bonjour à quelqu'un, pourquoi on va lui dire bonjour? Est-ce qu'on s'intéresse à lui ou à elle? Ou est-ce qu'on s'intéresse à soi? Est-ce qu'on y va par intérêt? Ah oui, il faut que j'aille lui dire bonjour parce que lui ou elle peut m'aider dans telle situation, peut me prêter de l'argent, peut me conseiller, etc. Oui, mais là, on a quelque chose derrière la tête. C'est quoi mon intention quand on va se dire bonjour tout à l'heure, et je le souhaite bien, c'est qu'on se rencontre, c'est tout. Se rencontrer. Quelque part, commencer à se parler l'un à l'autre, en fait. Ici, il y a des gens que je commence un peu à connaître. Hein, j'ai pas vu vos enfants, d'ailleurs, devant, aujourd'hui. Un petit garçon qui est venu. Hein. Et c'est ça, un cœur bien disposé. Le problème, c'est que si on vit en fonction de nos acquis, alors chez papa et maman, on a toujours vu, excusez-moi l'expression, faire un peu n'importe quoi. Même s'il y avait un vernis de, comment dire, de bonne façon, de gentillesse, etc. Mais on se rend compte que derrière le vernis, il y a de l'indifférence. Il peut y avoir de la méchanceté. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut y avoir un manque de confiance, en fait. Un cœur bien disposé. Et le texte nous dit, L'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Alors, on pourra dire, ouais, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est ce qui se passait. Du temps de David, il n'avait pas compris grand-chose. La plupart des gens ne savaient pas lire. On pourra dire, ouais, mais dans le Nouveau Testament, quand même, c'est rare que Dieu nous dise, je connais ce qu'il y a au plus profond de toi-même, et j'aimerais que tu me regardes dans les yeux, nous dit Dieu, quand tu vas décider quelque chose. Eh bien, non seulement le Nouveau Testament parle de ça, mais quand vous relirez cet après-midi, ce soir, la deuxième épître de Pierre et le chapitre premier, à partir du verset 6, Pierre va dire, quand tu vas patienter, quand tu vas aimer les chrétiens, quand tu vas aimer les gens de la société, quand tu vas avoir de la mesure dans ce que tu fais, alors non seulement tu vas t'occuper de toi, la vertu, c'est-à-dire la qualité de ton âme, non seulement tu vas vivre par la foi, mais tu vas, je crois que c'est le verset 7 ou 8 qui dit que celui en qui ces choses se trouvent, il va mieux connaître Jésus. C'est-à-dire que il faut chercher à faire les choses avec Dieu, mais quand on fait les choses bien, alors on va mieux aussi connaître Dieu, on va mieux comprendre en fait. Eh bien, la question que je vous ai posée au début, c'est qu'est-ce que vous allez retenir de ça? Moi, ce que j'ai retenu pour moi, c'est que sans du tout juger mes parents, il y a un moment où je suis passé à une connaissance personnelle de Dieu. Et grâce à Isabelle, parce que dans le couple, il y a deux manières différentes de vivre. Alors, on est obligé aussi de se remettre en question dans nos habitudes. Chez mes parents, on vivait comme des gitans, et chez ses parents, comme des descendants de Louis XIV. Bon, c'est moins compliqué que le Brésil, l'Asie, et puis et les Antilles, mais c'est quand même compliqué. Et quelque part, je crois qu'on peut dire qu'on a cherché à vivre ces choses-là en connaissant le Dieu que Isabelle cherchait à connaître et que moi j'ai cherché à connaître. Et je pense que dans ce regard en arrière qu'on peut avoir sur notre vie, alors on est content d'avoir fait ça. Et on est là pour témoigner que cette relation avec Dieu, elle produit quelque chose de profond, de beau, et que c'est ça qui nous donne la réussite, en fait. Et pas du tout toutes ces choses auxquelles on pourrait penser. Eh bien voilà un sujet de réflexion que je laisse sur vos cœurs.